Troisième vague de l'avenir, l'hyperdémocratie. À la fin de son dernier livre, rédigé en 1875, critique du programme de Gotha, Karl Marx écrit cette phrase mystérieuse en latin. Dixi et salvavi animam meam. Je ne dis ça que pour sauver mon âme. Comme s'il voulait faire comprendre à ses lecteurs que le programme politique qu'il venait de proposer aux socialistes allemands n'avait à ses yeux pas la moindre chance d'être appliqué. Comme s'il pensait que personne, jamais, n'aurait le courage ni les moyens de maîtriser le capitalisme et ses conséquences, à la fois enthousiasmantes et suicidaires. Aujourd'hui, au moment où les démocraties de marché ont parcouru une grande partie du chemin prévu par l'auteur du Capital, et alors que le socialisme s'est fourvoyé dans bien des impasses prévues et dénoncées par Marx, la survie durable d'une humanité libre, heureuse, diverse, équitable, soucieuse de dignité et de respect, paraît impossible. Il semble même vain d'y réfléchir. Et pourtant, quand en 1516, Thomas More rêvait de faire élire les dirigeants d'Utopia, sa cité imaginaire, il n'imaginait pas que les ministres de son propre pays seraient 4 siècles plus tard élus par le peuple tout entier. De même, quand en juillet 1914, Jean Jaurès imaginait une Europe libre, démocratique, pacifique et rassemblée, rien ne permettait d'espérer que telle serait la situation du vieux continent moins de 80 ans plus tard. Il faut aujourd'hui oser faire le même acte de foi en l'avenir. Tenter une nouvelle fois de montrer que l'humanité n'est pas condamnée à se détruire, ni par le marché, ni par la science, ni par la guerre, ni surtout par la bêtise et la méchanceté. Tout annonce une transformation progressive de l'homme en objet, une amplification des injustices, de la précarité, de la violence. Tout indique même que nous entrons dans une sombre avant-guerre. Les nations les plus sophistiquées réagissent à la barbarie par la violence, à la peur par l'égoïsme, à la terreur par les représailles. Il semble donc raisonnable de se résigner à admettre que l'homme n'est qu'un monstre et que notre monde ne pourra jamais devenir une démocratie planétaire, tolérante, pacifique, diverse mais rassemblée. Pourtant, une telle dynamique est en marche. Le bien après le marché et la guerre. Jupiter après Quirinus et Mars. Pour sauver l'humanité de ses démons, cette troisième vague de l'avenir devra évidemment déferler avant que l'une ou l'autre des deux premières n'ait mis fin, chacune à sa façon, à l'espèce humaine. Pour imaginer comment un tel avenir pourrait advenir à temps, il faut oser, comme les visionnaires d'antan, regarder très loin, bien au-delà de l'actuelle suprématie de l'Empire américain, de l'émergence menaçante de l'ordre polycentrique, de l'hyper-empire et des innombrables conflits qui s'en suivront. On comprendra alors que ce que je nomme ici l'hyper-démocratie s'inscrit tout naturellement dans cette histoire de l'avenir. On verra que bien des forces sont déjà souterrainement en train d'en établir les fondations et qu'il ne dépend que de nous aujourd'hui, qu'elles deviennent dans quelques décennies la réalité du monde. Le choc démocratique. Comme à l'aube de toute révolution majeure, il nous appartient d'abord d'en mesurer l'urgence, d'en nommer les acteurs, d'en définir les valeurs et d'en imaginer les institutions dans la modestie du quotidien et la démesure de l'idéal. Maintes forces positives poussent dès aujourd'hui à l'instauration d'un monde vivable pour tous. Les vertigineuses découvertes des sciences, les formidables progrès des techniques feront de plus en plus prendre conscience à un nombre croissant de gens que le monde est un village, que l'abondance est possible, qu'il est possible à tous de vivre bien plus longtemps et bien mieux. On pourrait en particulier en déduire, rationnellement, que le climat peut être stabilisé, que l'eau et l'énergie peuvent abonder, que l'obésité et la misère peuvent disparaître, que la non-violence est possible, que la prospérité pour tous est réaliste, que la démocratie peut devenir universelle, que les entreprises peuvent servir le bien commun, qu'il est même envisageable de protéger toutes les différences et d'en créer d'autres. Et pourtant, la prise de conscience de ces potentialités ne suffirait pas à empêcher l'avènement de l'hyper-empire, ni à éviter l'hyper-conflit. L'homme n'a jamais rien bâti sur de bonnes nouvelles. En revanche, quelques catastrophes annoncées démontreront crûment, aux plus sceptiques, que notre mode de vie actuel ne peut perdurer. Le bouleversement du climat, l'écart croissant entre les plus riches et les plus pauvres, l'augmentation de l'obésité et de l'usage des drogues, l'emprise de la violence dans la vie quotidienne, les actes terroristes de plus en plus terrifiants, l'impossible bunkérisation des riches, la médiocrité du spectacle, la dictature des assurances, l'envahissement du temps par les marchandises, le manque d'eau et de pétrole, la montée de la délinquance urbaine, les crises financières de plus en plus rapprochées, les vagues d'immigration échouant sur nos plages, d'abord main tendue, puis le poing levé, les technologies de plus en plus meurtrières et sélectives, les guerres de plus en plus folles, la misère morale des plus riches, le vertige de l'autosurveillance et du clonage viendront un jour réveiller les dormeurs les plus profondément assoupis. Les désastres seront, une fois de plus, les meilleurs avocats du changement. Comme à la fin de chaque grande guerre, on parlera alors, encore une fois, de tirer des leçons du passé, de pardonner sans oublier, de reconstruire le monde autrement, d'en finir à jamais avec la violence. Des gens de toutes conditions, de toutes nationalités, de toutes cultures et obédiences réfléchiront aux conditions d'une survie durable de l'humanité. On comprendra que ni l'hyper-empire, ni l'hyper-conflit ne peuvent créer un monde voué à durer. Des projets politiques surgiront de partout pour régler les contentieux frontaliers, rendre compatibles les multiples revendications nationales sur un même sol, apprendre aux gens à vivre sereinement avec eux-mêmes et avec les autres. Ces projets utopistes seront peut-être récupérés un temps par des dictateurs rêvant de fonder un empire apaisé et planétaire. Une nouvelle idéologie totalitaire, englobante, rassurante, messianique, religieuse ou laïque, aura sans doute son prophète, son livre, ses prêtres, ses policiers, ses bûchers. Puis, une nouvelle organisation harmonieuse du monde verra le jour. Elle ne sera d'abord qu'une cohabitation planétaire du marché et de la démocratie. Peu après, ils seront l'un et l'autre dépassés par ce que je nomme ici l'hyper-démocratie. Pour comprendre ce pronostic, il me faut introduire ici de nouveaux concepts. Des acteurs d'avant-garde, que je nommerai les transhumains, animent déjà, des entreprises relationnelles où le profit ne sera plus qu'une contrainte et non une finalité. Chacun des transhumains sera altruiste, citoyen de la planète, nomade et sédentaire à la fois, égal en droit et en devoir à son voisin, hospitalier et respectueux du monde. Ensemble, ils feront naître des institutions planétaires et réorienteront les entreprises industrielles. Elles développeront, pour le bien-être de chaque individu, des biens essentiels. Le plus important sera le bon temps. Et pour le bien-être de tous, un bien commun, dont la dimension principale sera une intelligence collective. Puis, au-delà même d'un nouvel équilibre mondial entre marché et démocratie, entre services publics et entreprises. Les transhumains feront naître un nouvel ordre d'abondance dont le marché sera peu à peu exclu au profit de l'économie relationnelle. Tout cela peut paraître totalement improbable. Aucun des acteurs de ces changements ne semble même exister. Là encore, ce n'est pas la première fois. Quand en janvier 1848, Marx parlait de la victoire prochaine de la bourgeoisie et de la force à venir de la classe ouvrière, il n'existait en fait en Europe pratiquement ni bourgeoisie ni classe ouvrière. Il avait détecté, avant même qu'ils surgissent, les futurs acteurs de l'histoire. Telle est encore la tâche d'aujourd'hui. L'avant-garde de l'hyper-démocratie, transhumain et entreprise relationnelle. Quand un convoi est en marche, l'avant-garde compte beaucoup plus que les généraux se prélassant au milieu de leurs troupes. L'histoire ne bifurque que quand des êtres aventureux, soucieux de la sauvegarde de leur liberté et de la défense de leurs valeurs, font, en général pour leur plus grand malheur, avancer la cause des hommes. Dans l'ordre marchand, cette avant-garde fut jusqu'ici composée, on l'a vu, de cœur en cœur, par ce que j'ai nommé la classe créative, entrepreneurs, inventeurs, artistes, financiers, dirigeants politiques. À l'avenir, une partie de cette classe, réunissant des individus particulièrement sensibles à cette histoire de l'avenir, comprendront que leur bonheur dépend de celui des autres, que l'espèce humaine ne survivra que rassemblée et pacifique. Ils cesseront d'appartenir à la classe créative marchande et refuseront de se mettre au service des pirates. Ils deviendront ce que je nomme ici les transhumains. Altruistes, conscients de l'histoire de l'avenir, concernés par le sort de leurs contemporains et de leurs descendants, soucieux d'aider, de comprendre, de laisser après eux un monde meilleur, les transhumains ne se contenteront ni de l'égoïsme des hypernomades, ni du désir de détruire des pirates. Ils ne se croiront pas propriétaires du monde, admettront qu'ils n'en ont que l'usufruit. Ils seront prêts à mettre en pratique les vertus du sédentaire, vigilance, hospitalité, sens du long terme, et celles du nomade, entêtement, mémoire et intuition. Ils se sentiront à la fois citoyens du monde et membres de plusieurs communautés. Leurs nationalités seront celles des langues qu'ils parleront et non plus seulement des pays qu'ils habiteront. Pour eux, la rébellion contre l'inéluctable sera la règle. L'insolence de l'optimisme sera la morale. La fraternité servira d'ambition. Ils trouveront leur bonheur dans le plaisir de faire plaisir, en particulier aux enfants dont ils se seront responsables. Ils réapprendront que transmettre est le propre de l'homme. Les femmes seront plus aisément transhumaines que les hommes. Trouver son plaisir à faire plaisir est le propre de la maternité. La montée progressive des femmes dans toutes les dimensions de l'économie et de la société multipliera les transhumains. Parmi les transhumains d'aujourd'hui, on pourrait citer à la fois Melinda Gates et Mère Teresa. On trouvera aussi parmi eux des milliardaires ayant confié l'essentiel de leur fortune à une fondation, des innovateurs sociaux, des professeurs, des créateurs, des religieux, des laïcs et des gens de bonne volonté tout simplement. Des gens pour qui autrui est une valeur en soi. Alors que dans le monde de la rareté, c'est-à-dire dans le marché, autrui est un rival, l'ennemi qui vient disputer les biens rares, celui contre qui se construit la liberté et avec qui il ne faut partager aucun savoir. L'autre sera d'abord, pour le transhumain, le témoin de sa propre existence, le moyen de vérifier qu'il n'est pas seul. L'autre lui permettra de parler, transmettre, se montrer généreux, amoureux, de se dépasser, de créer plus que pour ses propres besoins et plus que ce qu'il se croit capable de créer. L'autre lui permettra de comprendre que l'amour d'autrui, et donc d'abord de soi-même, est la condition de la survie de l'humanité. Les transhumains mettront en place, à côté de l'économie de marché, où chacun se mesure à l'autre, une économie de l'altruisme, de la mise à disposition gratuite, du don réciproque, du service public, de l'intérêt général. Cette économie, que je nomme relationnelle, n'obéira pas aux lois de la rareté. Donner du savoir n'en prive pas celui qui le donne. Elle permettra de produire et d'échanger des services réellement gratuits de distraction, de santé, d'éducation, de relations, etc., que chacun jugera bon d'offrir à l'autre et de produire sans autre rémunération que la considération, la reconnaissance, la fête. Des services non rares, car plus on donne, plus on reçoit. Plus on donne, plus on a le désir et les moyens de donner. Travailler deviendra même dans l'économie relationnelle un plaisir sans contrainte. Les transhumains formeront une nouvelle classe créative, porteur d'innovations sociales et artistiques, et non plus seulement marchandes. Les transhumains mettront au point les outils de leur action. Comme les animateurs du marché créent des entreprises industrielles, allocataires de ressources rares, les transhumains animeront des entreprises relationnelles, allocatrices de ressources pour l'essentiel illimitées. Leur finalité sera d'améliorer le sort du monde en traitant les problèmes que le marché ne pourra résoudre, en contrebalançant la mondialisation du marché par celle de la démocratie. Dans ces entreprises, le profit ne sera qu'une contrainte nécessaire à la survie, non une finalité. Partis politiques et syndicats sont les premières entreprises relationnelles. La Croix-Rouge, Médecins sans frontières, CARE, Greenpeace, WWF et surtout bien d'autres ONG créées au Sud ont pris la suite. Pour n'en citer qu'une au Sud, parmi les centaines de milliers qui existent, celle qui a permis à un bidonville de Lima, Villa El Salvador, de scolariser 90% des enfants et des adultes. Ces entreprises relationnelles jouent déjà, en marge du capitalisme, le rôle que les marchands de Bruges et de Venise avaient en marge du féodalisme. On y trouvera bientôt toutes sortes d'institutions hors sol, remplissant des missions civiques, médicales, écologiques ou sociales, ONG, intermédiaires de négociations diplomatiques, clubs de sports amateurs, lieux ou sites de rencontres gratuits ou de coopération. La plupart d'entre elles seront créées au Sud par des gens qui se prendront en main sans plus rien attendre de personne. Une des catégories les plus importantes d'entreprises relationnelles sera constituée par les institutions de microfinance, acteurs de plus en plus majeurs du marché, de la démocratie et de la relation. La production des entreprises relationnelles, évaluée en termes marchands, représente d'ores et déjà environ 10% du PIB mondial, et leur part est en très forte croissance. Elles ont déjà créé des concepts annonciateurs des valeurs de l'avenir, le droit d'ingérence, le droit à l'enfance, le droit à la dignité. Elles sont aussi à l'origine de la plupart des institutions internationales récentes. Le Fonds pour le Sida, le Tribunal pénal international, le Fonds mondial pour l'environnement. Grâce à ces entreprises d'un genre particulier, on commence à parler de communauté internationale, pour ne pas parler encore de gouvernement mondial, et de protection de la nature, pour ne pas parler encore de bien commun. Là se situe déjà les balbutiements d'une démocratie mondiale que je nomme l'hyperdémocratie. De nouvelles entreprises relationnelles apparaîtront, en particulier dans la gestion des villes, dans l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté, la gestion de l'environnement, la protection de la femme, le commerce équitable, l'alimentation équilibrée, la valorisation du gratuit, la réinsertion sociale, la lutte contre la drogue et la surveillance des surveilleurs. Elles se substitueront à des entreprises privées et à des services publics. Elles prendront en charge la prévention des maladies, la réinsertion des marginaux, l'organisation de l'accès des plus faibles aux biens essentiels, en particulier à l'éducation, la résolution des conflits. Dans ces entreprises, de nouveaux métiers apparaîtront. Une nouvelle attitude à l'égard du travail s'y développera, consistant à trouver du plaisir à donner, à faire sourire, à transmettre, soulager, consoler. Ensemble, ces entreprises relationnelles constitueront une nouvelle économie, aussi marginale aujourd'hui que l'était le capitalisme au début du XIIIe siècle et tout autant annonciatrice d'avenir.